Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Alors aujourd'hui nous allons lancer un grand cri du cœur avec le titre de l'album que nous allons partager. Nous aurons toujours 20 ans, et oui, c'est un rêve.
Oui, j'aimerais que ce soit un petit morceau de réalité, mais j'ai peur que... Enfin, si, la bande dessinée prolonge le rêve enfantin.
Voilà, il ne vous reste plus qu'à en scénariser une, Thierry. C'est une parution Air Libre, donc Dupuis, avec Jaime Martín, un auteur espagnol que nous aimons beaucoup, qui est à la fois au scénario, puisqu'il raconte d'ailleurs son histoire à lui, et au dessin. Nous avions lu plusieurs de ses albums par le passé, mais nous allons mentionner ici Les Guerres Silencieuses et Jamais je n'aurai 20 ans, qui fait directement écho au titre de ce dernier album, Nous aurons toujours 20 ans. Alors expliquez-nous le lien entre ces albums, Thierry.
Oui, c'est une chronique familiale, en fait, sur plusieurs générations, plusieurs décennies. C'est d'abord l'histoire de ses grands-parents, au moment de la guerre d'Espagne. Sujet balisé, mais très bien raconté par Jaime Martín. C'est l'histoire de son père, Troufion dans l'Espagne franquiste des années 60. Et c'est aujourd'hui son histoire à lui, jeune garçon puis jeune adolescent dans les années 70. Ce qui m'a frappé en lisant cet album, c'est moins le lien avec les albums passés que un miroir avec ce que pouvait être la vie d'un jeune homme dans ces années-là. Je dirais qu'il y a quand même un lien plus direct avec les guerres silencieuses qui est que quand on est troufion, surtout dans ces années-là, c'est qu'est-ce qui règne ? C'est l'ennui, c'est le sentiment d'inutilité, de perte de temps, de coupure abusive dans une trajectoire. Ça, c'est commun à tous les jeunes qui ont fait leur service militaire à cette époque-là. De même, dans l'album dont nous parlons aujourd'hui, c'est l'apprentissage de la liberté d'expression, la découverte des relations sociales, l'importance de l'amitié avec les copains. La musique comme élément libérateur, la bande dessinée, on en reparlera, et en même temps les spécificités que pouvait ressentir un adolescent dans l'Espagne des années 70.
Voilà, c'est quelque chose qui est assez difficile à imaginer quand même pour nous, en tout cas pour moi, parce que j'ai sensiblement le même âge que Jaime Martín, mais pourtant, je n'ai pas du tout vécu les choses de la même manière, puisqu'il n'y avait pas cette chape, en quelque sorte, sur mes épaules en France.
Oui, quand je me remémore ce que pouvait être la vie en Espagne pendant une cinquantaine d'années, depuis la guerre d'Espagne, qui a été une guerre civile, mais effroyable, une somme d'atrocités à peine imaginables, la Deuxième Guerre mondiale, bon, que dire, s'il faudrait tout dire, alors ne rien dire. Et puis la chape de plomb idéologique, morale qu'a jeté le franquisme sur l'Espagne d'après-guerre. Là, on en a une petite idée. En préparant cette émission, on se remémorait un excellent album de Paco Roca,
L'hiver d'un dessinateur,
qui racontait le quotidien laborieux de dessinateur dans l'Espagne des années 50. Ce travail de fourmi pour tenter d'exprimer quelque chose tout en n'exprimant rien par rapport à la censure, en même temps vivant difficilement d'un métier alimentaire. Enfin, c'était le portrait de cette Espagne grise. Tout le contraire de ce pays ensoleillé, joyeux et plein de vie.
Mais où pourtant il y a la possibilité, quelque part, de trouver une respiration à travers le dessin. C'est ce qui se passe dans les deux albums.
C'est ce qui se passe dans l'album de Jaime Martín qui nous occupe aujourd'hui. Alors, est-ce que je peux me permettre un souvenir personnel ? J'en finis avec Franco, parce que heureusement, on finit un jour avec Franco. Je me souviens parfaitement de son agonie, parce que c'était abondamment commenté par les médias français. C'était un des derniers dictateurs vivants en Europe. Et je me souviens très bien que sa succession étant très difficile, après un dictateur, il y a toujours une pléthore de dauphins, puis de gens qui veulent accaparer la place ou de gens qui veulent opérer un changement radical. Je me souviens très bien qu'on avait émis l'hypothèse de le mettre en hibernation.
C'est vrai, je me souviens aussi.
Vous s'en souvenez aussi.
Incroyable.
Ce serait risible si ça ne concernait pas un épouvantable dictateur comme Franco. Et ce qui est passionnant dans cet album, c'est que pour nous, la mort de Franco, c'était une page qui se tournait. Mais pour les Espagnols, et surtout les parents de Jaime Martín, qui étaient des communistes fervents, purs et durs, qui étaient confrontés à l'injustice sociale parce qu'ils vivaient dans un quartier en périphérie de bidonville.
C'était la misère.
C'était la misère. Donc, entre guillemets, cette pourriture de Franco, bon débarras. C'est un choc, c'est une libération, c'est un avenir possible. Et ça va pas être ce qu'a illustré notamment au cinéma Pedro Almodovar, avec la Movida, qui je pense concernait principalement les grandes villes et surtout la capitale, où l'explosion de liberté, c'est un dérèglement des mœurs, c'est le lancement de courants artistiques plus ou moins convaincants, mais qui sont plus de l'ordre du défoulement que de la vraie créativité.
Almodovar donnait un côté festif à cette histoire.
Oui, mais surtout joyeux. Voilà. C'est pas ce qu'on voit dans cet album. Parce que là, c'est vécu du point de vue de gens qui sont en bas de l'échelle sociale et qui vont souffrir encore longtemps, parce que là, l'Espagne de ces années-là, c'est aussi les attentats de l'extrême droite, toujours vivaces, les attentats de l'OTA, enfin un peu ce qu'ont vécu aussi les Italiens dans ces années 70, ce qu'ils appellent les années de plomb, en sous-main du gouvernement officiel, des apparences démocratiques, il y a des enjeux de pouvoir qui se jouent d'une façon très violente. Et ça, on le retrouve dans cette histoire.
Voilà, alors on est ici dans un album qui est assez compliqué à raconter quand même, hein, parce qu'il est consistant déjà.
Oui, et puis compliqué à raconter parce que énumérer, en fait, c'est un album qui est passionnant, mais qui est très ancré dans le quotidien, c'est-à-dire c'est les petites choses qui font la vie de tous les jours. C'est sa scolarité, c'est la découverte de la musique, je le répète, c'est d'une importance primordiale, la couverture de la bande dessinée, de la nouvelle bande dessinée européenne.
Essentiel, donc, ça aussi, hein, oui.
Ouais, c'est essentiel, c'est difficile à le raconter, à moins d'accumuler, et puis de vous raconter l'album page par page. Mais c'est là où j'en reviens à ma remarque liminaire. Qu'est-ce qui relie tous ces adolescents? C'est tout ça. C'est là qu'on se rend compte de l'importance qu'a eu une revue comme Métal Hurlant. La bande dessinée moderne est née dans, je le répète souvent, donc je radote, tant pis, là je me permets de radoter, enfin m'excuse de radoter. La BD moderne est née dans Métal Hurlant et dans L'Écho des Savanes. Et Métal Hurlant, c'est ceux qui vont devenir les icônes de la BD moderne, notamment Bilal, notamment Mébius. Mébius, c'est quelqu'un qui a en fait tout explosé au niveau graphique, narratif. Je ne sais pas si on se rend compte de l'importance qu'a eu Mébius dans l'élaboration de la BD moderne. C'était un grand défricheur et pour Jaime Martín, c'est vraiment un choc, Métal Hurlant. C'est ce qui va lui donner envie, lui qui a toujours dessiné, de se lancer dans un métier qui n'est pas facile, surtout en Espagne où il y a quasiment pas de presse spécialisée, pas d'éditeur. Pas d'éditeur significatif. La BD est importée, en fait. Il y a peu d'auteurs qui ont une ambition artistique, non pas qu'ils n'en soient pas capables, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'exprimer. C'est une époque où tout se construit. Et c'est ce parcours-là qu'on va suivre. Donc, je le disais, c'est très comparable à ce que vit un adolescent de France, par exemple, un jeune adulte français dans ces années-là. Et en même temps, il y a vraiment la spécificité espagnole et c'est très bien montré dans cet excellent album.
En Espagne, il existait quand même des revues, au moins une.
Ah, il y en a une totalement mythique, El Vibora. Alors, El Vibora, comment on pourrait la définir? On peut la comparer à L'Écho des Savanes, dans le fait que ça mélange, c'est une grande marmite où il y a de l'humour, beaucoup de mauvais goût, y compris de la BD érotique. Et quand je dis érotique, c'est un mot poli.
N'en dites pas trop.
J'y pense parce que il y a encore des ouvrages qui sont édités ou réédités qui avaient été pré-publiés dans cette revue. Et effectivement, dans l'Espagne catholique, on comprend que ça a pu choquer certains, même dans ces années-là.
Mais c'est assez incroyable, effectivement, que ça ait pu paraître, ne serait-ce que ça.
Oui, parce que s'il n'y avait plus une censure, il y avait quand même une autocensure. Mmh. Comme en Italie, c'est en Italie où le poids de l'Église était très important, en Espagne, il est resté très important même après la chute du franquisme.
Alors moi, il y a un petit parallèle que je voudrais faire. Ça m'est venu, alors que ça fait longtemps que je lis Jaime Martín, mais j'ai l'impression qu'il y a un autre auteur latin qui se rapproche, ou duquel Jaime Martín peut-être s'est inspiré, c'est Pellegrero.
Oui, vous le faisiez remarquer à très juste titre. En introduisant une précision, c'est que on essayait en fait de définir le dessin de Jaime Martín. Moi, je tentais l'adjectif quotidien. Alors, non pas que ce soit péjoratif, bien au contraire. Mais pour moi, il y a quelque chose d'immédiat. Tous ces personnages, non seulement dans ce qu'ils représentent, on peut les rencontrer au coin de la rue. Ils ont une crédibilité absolue. D'ailleurs, ils ont existé. Mais dans leur représentation psychologique, dans leur représentation graphique, ils ont quelque chose de immédiatement crédible par ce dessin qui est sans chichi, qui est pas caricatural, qui est pas surjoué. Et c'est vrai que Pellegrero, il y a un petit plus. C'est pas un plus en qualité, c'est un plus en... Je cherche un terme, aidez-moi, bon sang.
Ah, je dirais en artistique, il y a quelque chose qui... Enfin, oui, il y a une voilà. Patte, quoi, différente.
J'avais peur d'être désagréable.
Non, non, il faut le reconnaître. Mais oui, et puis chacun son style, quoi. Donc il y a de la place pour eux deux, ça, assurément, dans nos bibliothèques. Aucun problème.
Oui, c'est ce que je dis toujours, la bande dessinée, c'est une montagne qu'on gravit par différentes voies. Il n'y en a pas qui sont plus légitimes que d'autres, il y en a qui sont plus longues à gravir, il y en a qui sont plus difficiles, plus ou moins valorisantes, mais l'essentiel, c'est de parvenir au sommet.
Et ce que j'apprécie beaucoup chez Raimé Martine, c'est justement cette capacité à nous parler de son histoire avec un petit H, soit, mais qui est reliée au grand, de façon simple, accessible, enfin qui nous parle à nous. C'est ce que je ressens à la lecture en particulier de Nous aurons toujours 20 ans. Et oui, on revient à notre souhait du départ, Thierry. Une parution Air Libre, un bon gros bouquin. Et puis vous pourrez lire les deux autres, hein. Jamais je n'aurai 20 ans et Les guerres silencieuses. On vous les conseille bien évidemment aussi. Merci Thierry, à bientôt pour, je pense, des nouveautés, puisqu'il en paraît un certain nombre en cette période. Au revoir.